Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat consacré à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Sahel peut-il devenir un Afghanistan bis? Nous retrouvons nos invités par téléphone. Dominique Thomas, spécialiste des mouvements islamistes, chercheur doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et en studio à Paris. Mathieu Guider, spécialiste du monde musulman, professeur à l'université de Genève. Dominique Thomas, on abordait en fin de première partie d'émission le début de la question sur la politique de l'enlèvement. Pourquoi Al-Qaïda au Maghreb islamique pratique cette politique de l'enlèvement? Est-ce qu'il s'agit d'une première étape et quel est l'objectif poursuivi?
Je crois que je serais assez d'avis de penser que c'est une stratégie qui est essentiellement basée sur une réalité pragmatique. C'est-à-dire que le touriste, qu'il soit d'abord le touriste ou éventuellement l'occidental, l'expatrié, pour peu qu'il, en plus qu'il ne soit pas musulman, représente une cible, je dirais, d'une manière générale, plus facile que, par exemple, des bâtiments diplomatiques ou des sociétés basées à l'étranger, dans cette région, ou éventuellement même des soldats, des forces armées occidentales, il y en a, qui peuvent être aussi dans cette région. C'est beaucoup plus difficile, si vous voulez. Donc, pragmatiquement, enlever des Occidentaux, des touristes ou des expatriés, c'est une opération qui demande certes de la préparation, mais c'est un peu plus aisé. Et puis, deuxième élément, c'est aussi purement pragmatique, c'est-à-dire que le fait de procéder à des enlèvements, ça permet de négocier ensuite quelque chose ou éventuellement d'un moyen de pression. Lorsque vous faites une attaque, vous envoyez un message, vous placez une bombe ou vous faites exploser un bâtiment diplomatique ou vous attaquez un convoi d'étrangers, vous avez envoyé un message, mais vous avez derrière pas forcément un moyen de pression. Là, vous avez un moyen de pression et c'est un moyen de pression sur lequel vous pouvez soit obtenir la libération de prisonniers, soit éventuellement faire pression pour obtenir des choses politiques, des revendications. Ça, c'est quand même un petit peu la plus difficile. Et puis, le dernier point, c'est l'aspect financier. C'est quand même, on le sait, qui dit otage dit rançon. À un moment donné, il y a même pour des mouvements islamistes qui peuvent, je dirais, avoir une philosophie autre dans cette optique-là, il y a l'aspect financier. Après, sur le plan de la législation, je dirais la jurisprudence islamique en temps de guerre, c'est-à-dire en période de djihad, il n'y avait pas énormément de textes contemporains qui a été édité par des prédicateurs djihadistes. Il y en avait eu quelques-uns. Il y a eu récemment aussi un texte qui est apparu d'un prédicateur qui se trouve au Yémen, qui légitimait largement le fait de pouvoir faire des enlèvements et éventuellement y obtenir des compensations financières. Ça rentrait dans la jurisprudence classique en temps de guerre. Donc c'est quelque chose qui va forcément évoluer. Il va y avoir forcément des textes de plus en plus là-dessus parce qu'on s'aperçoit effectivement que c'est un mode opératoire qui est de plus en plus utilisé et pas uniquement dans cette région. Donc c'est quelque chose de tout à fait effectivement en voie de développement.
Mathieu Guider, donc cette politique de l'enlèvement qui est menée par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est aussi pour chasser tout le monde.
Initialement, en réalité, c'était vraiment financier. C'était purement pour avoir une autre source de financement, étant donné que ces groupes s'étaient spécialisés pour financer dans un certain nombre de contrebandes, d'activités de contrebande. Et puis, ça a évolué vers du racket, plus ou moins, des entrepreneurs, notamment algériens. Et à un moment donné, face à la pression des services de sécurité, de l'armée, il était urgent d'avoir une autre source de financement. Ils avaient tenté une première expérience en 2003 avec des touristes allemands, un quart de touristes allemands. Ça avait rapporté quelques millions d'euros pour les libérer. Et l'un des chefs, des sous-chefs qui avaient participé à cela, s'en est souvenu quelques années plus tard pour Al-Qaïda. Et donc, au début, c'était vraiment pour avoir une source de financement conséquente, sans grand risque, puisqu'il est facile d'attaquer des touristes qui ne sont pas armés, qui ne sont pas protégés, et de négocier la contrepartie. Il y a eu un tournant, cependant, puisque rappelons quand même qu'en 2010, Al-Qaïda au Maghreb islamique a enlevé plus de 20 occidentaux de différentes nationalités que vous avez mentionnées au début, des Espagnols, des Autrichiens, des Suisses, des Allemands, des Français, des Canadiens, des Américains. Donc il y a eu un certain nombre de nationalités. Le tournant s'est fait l'été 2010, lorsque, à la suite de l'enlèvement des Français, d'abord Pierre Kamat et ensuite Michel Germano, eh bien, il y a eu l'intervention de Ben Laden, qui était totalement inattendue et tout à fait exceptionnelle par rapport au contexte. D'abord, Ben Laden a donné une légitimité à ce type d'action par son intervention. Il a revendiqué l'action de l'enlèvement des Français à Arlit.
Donc les liens avec Ben Laden de ACMI sont véritablement avérés.
Voilà. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens qui étaient établis et que, surtout, même si ces liens ne sont pas de l'ordre de téléphoner ou de prendre contact directement, il y a des liens idéologiques. Et l'intervention Ben Laden, le fait qu'il, à deux reprises, il reprenne ce type d'action, on a fait un autre type d'action. Ce n'était plus perçu comme une action uniquement financière, mais politique davantage et idéologique, c'est-à-dire qu'on pouvait la négocier comme une forme de djihad. Et aujourd'hui, c'est la logique qui est là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ne demandent plus véritablement de l'argent, ou alors vraiment très peu, c'est-à-dire que pour les Français, on se souvient au début, les rumeurs qui circulaient, c'est qu'ils demandaient 1 million d'euros, mais ce n'est absolument pas comparable à ce qu'ils demandaient auparavant. Par exemple, pour les Espagnols, 3 mois auparavant, ils avaient demandé 4 millions d'euros. Donc, on voyait glisser d'une logique financière, d'une logique de rançon vers une logique plutôt politique de revendication, d'exploitation politique et médiatique. Et l'objectif final étant effectivement de faire dans la durée une visibilité à ces organisations, une visibilité de leur agenda politique, une visibilité de leurs revendications, une carte de chantage, un joker en quelque sorte, face aux puissances occidentales et en particulier face à la France, qui a entre-temps également changé de stratégie.
Alors l'objectif, c'est aussi d'assécher les pays de la région en manne touristique. L'idée est assez claire. Comment se passe la coopération entre la Mauritanie, le Niger, le Mali, pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, Monsieur Guider?
Alors, difficilement parce que ces pays ont chacun leur tradition, ils ont chacun sa situation économique, sociale, ils ont chacun leur vision de ce qu'est le terrorisme. Le Mali, par exemple, ne considère pas le salafisme, que nous considérons comme un terreau du terrorisme, ne considère pas le salafisme comme une antichambre du terrorisme, puisque l'idéologie salafiste est assez répandue. La Mauritanie s'est engagée sous l'impulsion d'un nouveau président, ancien général, dans une lutte acharnée contre Al-Qaïda politiquement, mais du coup cela fait que ce président est perçu comme un agent de la France, comme un collaborateur qui tue des musulmans avec l'appui de la France. Vous avez l'Algérie qui, elle, représente à elle seule toute une problématique puisque les Algériens estiment qu'ils peuvent gérer le problème tout seuls. Deuxièmement, qu'il faudrait qu'ils aient le leadership sur cette région par rapport aux autres pays. Ils ne veulent pas aucune intervention ni de la France, ni de l'Europe, ni des autres pays.
Ni des États-Unis.
Ni des États-Unis. Ils ne veulent absolument aucune, officiellement en tout cas, ils ne veulent aucune aide ni aucune intervention, considérant que c'est un problème interne et qu'il s'agit de l'ingérence dans leurs affaires que même de les aider ou d'en parler. Vous avez d'autres pays qui considèrent que le terrorisme est un problème typiquement occidental, qui ne les concerne pas, en estimant qu'on n'a jamais enlevé chez eux des locaux, on n'a jamais attaqué leurs entreprises, et qu'on attaque que les Français, les étrangers. Et donc, face à cette mosaïque de situations, de politiques, de stratégies, la coopération a du mal à se passer. Lorsque Alger réunit un certain nombre de pays pour une réunion de coordination, de renseignement, eh bien, vous avez le Maroc qui est absent. Lorsque l'Europe ou l'OTAN réunit un certain nombre de personnes, l'Algérie est absente, alors qu'on connaît le poids de l'Algérie, on connaît le poids des combattants algériens dans cette organisation. Et donc, cela patauge un peu dans cette région-là. C'est très difficile. Mais disons qu'il y a un certain nombre de pays qui sont décidés à travailler avec la France pour au moins protéger les citoyens français. On a une preuve récemment, la Mauritanie et le Niger en particulier, qui sont des pays qui ont décidé de s'engager sérieusement aux côtés de la France pour au moins protéger ses ressortissants. Mais la coopération est très difficile alors qu'elle est indispensable dans cette région.
Un commentaire, Dominique Thomas, sur ce que vient de dire Mathieu Guider?
Oui, effectivement, du point de vue géopolitique et de l'étendue de cette zone, on peut penser que de toute façon, au vu des relations internationales et relations surtout régionales qui lient les États de cette région, il apparaît difficile qu'il puisse y avoir vraiment une coordination. Et on le voit, cette coordination a beaucoup de difficultés à se mettre en place. Pour peu, en plus, qu'on peut supposer que cette mouvance qui est ACMI cherchera à impliquer encore plus d'États voisins de cette région-là, éventuellement de manière plus directe le Tchad, pourquoi pas le Sénégal, voire même y compris, je le mentionnais tout à l'heure, le Nigeria, qui a un poids, si vous voulez, démographique et économique extrêmement important. Et cela risque de compliquer finalement encore plus la situation, parce que même si sur le plan, je dirais, des effectifs et sur le plan de l'influence, ils peuvent éventuellement avoir des difficultés à recruter de manière comme ça étendue, ils peuvent coopter un certain nombre de mouvances, de mouvements, de groupuscules, voire de groupes qui sont des groupes de contestation et qui utilisent la violence armée comme moyen d'expression ou comme lutte. Et à ce moment-là, ils pourront, en cooptant un peu ces organisations, justement encore étendre leur influence, ce qui compliquerait un peu la situation. Et en plus, on a une zone, comme on l'avait rappelé tout à l'heure, de trafic qui ne fait que, je dirais, compliquer la situation déjà, qui est sur le plan politique pas simple, parce que c'est une zone effectivement où les frontières sont quand même assez poreuses, avec une région, ce qu'on appelle une zone grise un petit peu, où le poids des États et des forces de sécurité des pays locaux reste quand même assez limité face à la mobilité de ces éléments-là.
Alors pourquoi et comment finalement le Sahel est-il devenu une zone grise, comme le dit à l'instant Dominique Thomas, et que dire de la stratégie de la France, Mathieu Guider?
Alors, il est devenu, au fur et à mesure de l'expansion d'ACMI, c'est-à-dire plus la pression sécuritaire et militaire était importante au nord, Tunisie, Algérie, Maroc en particulier, et même la Libye, plus on voyait les combattants descendre et s'étendre vers les zones où il y avait moins d'États, on va dire, et puis la structure sociale n'est pas la même. La stratégie de la France, et comme tous les pays d'ailleurs, jusqu'à l'été 2010, était à peu près la même. C'est-à-dire que on essayait d'éviter de sécuriser les installations, les entreprises, de les protéger par d'ailleurs des services privés, de sociétés militaires privées, et on essayait d'éviter que les touristes n'aillent dans les zones véritablement. Le ministère des Affaires étrangères avait un certain nombre de zones assurées en rouge, en orange, etc., d'éviter qu'ils y aillent. Et lorsque un touriste était pris, on faisait appel au réseau habituel de négociation, des intermédiaires informels, pour arriver à sortir les ressortissants de cette région. Tous les pays l'ont fait, hein, de l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, tous les pays l'ont fait jusqu'à l'été 2010. Et là, on a ce changement suite à l'intervention militaire qui a fait que la France a changé de stratégie, parce que à ce moment-là, elle s'est rendue compte d'un élément important, c'est que toute cette thématique, cette affaire des otages, ne tient que parce que ACMI avait mis un lien direct entre les citoyens français et le gouvernement français. C'est-à-dire, elle a considéré chaque citoyen français comme le représentant du président Sarkozy. D'ailleurs, dans la propagande de l'organisation, les Français sont appelés les soldats de Sarkozy. Cela est dû au fait que, comme le président Sarkozy a dit qu'il était en guerre contre ACMI, et que ACMI lui a répondu « oui, nous sommes en guerre contre la France, nous sommes dans le djihad contre la France », eh bien, nous sommes dans une logique guerrière, symboliquement au moins, et pratiquement sur le terrain, qui fait que pour le président Sarkozy, en tant que chef des armées, chaque citoyen français est un soldat de Sarkozy. Or, cela peut fonctionner pour les prises d'otages, du moment que vous considérez, mais ce n'est pas vrai, puisque vous avez, parmi les citoyens français, des gens qui sont des opposants au président Sarkozy, à sa politique, qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il a été élu président que tous les Français sont d'accord. Et il fallait rompre ce lien entre citoyens français et politiques du gouvernement français. Et la seule façon de la rompre, c'est de signifier clairement aux terroristes d'ACMI que le fait d'enlever un Français ne signifie pas que le gouvernement français, vous avez un point d'appui sur lui ou une carte pour le faire chanter. Et c'est en cela que la stratégie a changé. Mais malheureusement, elle a des avantages politiques, mais elle a des inconvénients pour les citoyens, pour les otages en question, puisqu'ils sont d'autant plus vulnérables. Et malheureusement, il faut du temps pour que l'organisation dissocie les citoyens du gouvernement.
Est-ce qu'on peut dire, pour aller un petit peu plus loin, que le Sahel sert de base pour frapper l'Europe?
Oui, clairement, aujourd'hui, oui. clairement aujourd'hui, le Sahel aujourd'hui est la zone où l'Europe est la plus vulnérable, puisque on sait que ACMI essaye depuis un certain nombre de mois, voire d'années, d'attaquer la France sur son territoire. Il y a eu un certain nombre de démantèlements de cellules ou d'individus qui voulaient être en appui à des attentats sur le territoire national. Cela n'a pas marché. Les services français ont été assez efficaces sur ces questions-là. Ils ont essayé dans d'autres pays également. Il y a eu un démantèlement d'un certain nombre de cellules. Et par conséquent, la seule façon d'atteindre les Occidentaux en général et les Européens en particulier, c'est de les chercher à l'extérieur de leur territoire sur cette zone-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, elle représente une zone de vulnérabilité pour les intérêts français et pour les citoyens français.
Vous partagez, Dominique Thomas ?
Il faudrait peut-être nuancer, parce qu'on a tendance aussi à vouloir un petit peu lier à ACMI, encore une fois, qui est apparu en 2007, je sais qu'il y a eu les avant le GSPC, qui est encore une fois essentiellement algérien. Et alors les réseaux éventuellement qui ont été en Europe étaient beaucoup des réseaux qui appartenaient aux anciennes mouvances algériennes en partie. Il y avait aussi des réseaux qui appartenaient au groupe du GICM, le groupe islamique des combattants marocains. Il y a eu aussi des éléments isolés tunisiens qui allaient combattre dans des zones ou des fronts ou qui avaient après séjour au Pakistan arrivé à monter des cellules. Enfin, il y avait toute une communauté comme ça et différentes mouvances. Mais je pense que il faudrait pas non plus ce qui s'est passé par exemple à une époque en fin 2006, dès ce janvier 2007 en Tunisie, dans la banlieue sud de Tunis, où il y avait eu justement des affrontements armés entre une petite cellule djihadiste et la police tunisienne, et ce qui s'est passé également au Maroc avec les réseaux du GICM et quelques réseaux comme ça un peu isolés, groupusculaires, JS Alafi djihadistes, lié ça avec ACMI ou avec les anciens réseaux du GSPC, c'est-à-dire que toutes les formes de violence ou de mouvements radicaux djihadistes dans le Maghreb ne sont pas forcément en interconnexion les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de stratégie ou de développement comme ça, de stratégie globale d'ACMI. ACMI reste une organisation à caractère algérien, elle s'est déployée vers le sud, le Sahel. Maintenant, pour l'Europe, il est clair qu'elle cherche aussi à s'implanter durablement en Europe pour essayer de frapper la France sur son territoire. Mais si on faisait la liste de tous les réseaux démantelés sur le territoire français depuis les 5-6 dernières années, on aurait beaucoup de mal à tous les lier à une volonté ou à un lien direct avec ACMI. Il y a des gens qui peuvent se structurer en cellules autonomes par l'intermédiaire de voyages ou par l'intermédiaire de radicalisation selon différents processus et vouloir frapper la France. Et après, être coopté ou pas par ACMI. On a des phénomènes qui sont surtout sur le territoire européen, qui sont extrêmement complexes et qui sont très éclatés, et où il y a vraiment très peu d'éléments, je dirais, d'interconnexion et de liens entre eux. Donc tout ça est encore, je dirais, au cas par cas et au territoire par territoire avant de parler de stratégie globale d'ACMI vers l'Europe. Il y a certes une volonté, mais après, dans les faits, les choses sont beaucoup plus à nuancer, je pense.
Et quelques mots pour finir, Mathieu Guider, sur les Américains.
Oui, je crois d'abord que effectivement nous allons vers l'individualisation du terrorisme. C'est l'objet des nouveaux terroristes, mon livre que vous avez signalé tout à l'heure. J'étudie ce phénomène de terroristes solitaires ou isolés, en tout cas, qui peuvent être récupérés par la suite. Les Américains, dans toute cette affaire, ont commencé par vouloir s'investir massivement et de façon forte dans la région. Ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Tous les pays de la région leur ont dit « nous ne voulons pas de vous parce que si vous intervenez, tous les djihadistes vont venir pour vous attaquer ». C'est un pouvoir à la fois d'attraction et de répulsion, en quelque sorte. Ce qui fait qu'ils sont en arrière-plan. Ils aident la France, en particulier, par un échange de renseignements. Ils essayent d'aider en installant un certain nombre d'outils et de services dans la région. Mais ils sont en attente de voir comment la France va gérer cette affaire. La France, aujourd'hui, représente véritablement le paravent et le bouclier pour la plupart des pays européens dans cette affaire.
C'est la fin de Géopolitique, le débat consacré à Al-Qaïda au Maghreb islamique et à la situation au Sahel. Merci à nos invités. Dominique Thomas, spécialiste des mouvements islamistes, chercheur doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de Les hommes d'Al-Qaïda, paru aux éditions Michelon. Et Mathieu Guider, spécialiste du monde musulman, professeur à l'Université de Genève, auteur de Les nouveaux terroristes, paru aux éditions Autrement. Je signale également cet ouvrage qui vient de sortir de Mohamed Mokadem qui s'intitule Al-Qaïda au Maghreb islamique. islamique, contrebande au nom de l'islam, qui vient de paraître donc aux éditions L'Harmattan. Vous pouvez retrouver Géopolitique sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également d'autres sujets de géopolitique sur diploweb.com. Géopolitique était signée Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique de l'émission. À très bientôt.